L'antenne aujourd'hui, je voulais reprendre la citation de notre voisine de studio, à savoir Fatia, qui nous avait dit un jour, eh bien nous sommes différents, comme tout le monde. Bonjour et bienvenue dans le pire reste à venir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 novembre 2022 et tout va bien. Ce matin nous parlerons handicap, nous parlerons accueil des personnes en situation de handicap, nous parlerons également du prix Jules Ledain, mais surtout nous accueillons ce matin à nos micros pour cette heure de folie qu'il va nous attendre, Anne-Frédérique Cuvillier et puis Karine Le Tertre, la première et directrice générale de l'association Jules Ledain, la seconde, et chef de service sur le foyer Annie Solange. Mais nous reviendrons dans un instant parce qu'elle a tout le parcours éducatif dans le milieu. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Anne-Frédérique Cuvillier et Karine Le Tertre. Comment allez-vous déjà? Commençons par ça.
Très bien, bonjour, merci de votre accueil.
Bonjour, oui, très bien, moi ça, aussi également, contente d'être là.
Eh bien c'est très bien, alors si ça va bien, on est parti pour une heure. Je le disais en intro de l'émission, vous venez de l'association Jules Ledain, c'est une association qui a 6 lieux de vie, si je ne dis pas de bêtises, qui reçoit des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. J'ai pas dit de bêtises jusque-là?
Non, c'est tout à fait ça.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis nous aurons l'heure devant nous pour en savoir un petit peu plus, pour savoir comment vous fonctionnez dans cette structure. On est bien alors là, hein? Il y a plus qu'un, c'est ça l'idée? Il y a plus qu'à. Eh bien nous voici partis avec vous durant la matinée.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et puis il y a un petit plaisir quand on a matinal le lendemain, c'est que la veille au soir, on recherche des morceaux de musique. Bah oui, pour égayer votre matinée, bien entendu. Et quel plaisir ai-je eu hier de tomber sur un morceau de l'Entourloupe qui est sorti là, tout frais. Sur ce morceau, on retrouve Scottville Athem, on retrouve LMK et puis Lady Chan. Ça nous fait plaisir de le partager avec vous. On commence cette matinée avec l'Entourloupe.
He needs me like a spicy therapy. Boy, I be come on. Hot chili chili, me na waste time, come on. Watch out for this girl, gang pussy power. Busy me too busy, me na fight over no man. Yeah. One time, two time, mash up the thing. Touch it on the left, right, sit down on it. One time, two time, wind up the thing. Every girl a shine bright like a disco. You impress me, you're freaky, you're nasty. Classic like a bestie, baby got the bestie. Wicked, dirty, messy, swerving. Catch us at the back of the bus, it's getting sexy. But you, I cook, I clean. I got my own money, and I'm so
funny. Ring a doorbell and the package is delivered. Juicy like a peach, water drip like a river. Hot like fire, this my empire. Hot like fire, this my empire. Hot like fire, this my empire. I'm a bad bitch and you know this.
West Indian, apples, salt, fish and the rice. Combination Venezuela, so we nice. Spanish and Jamaican, yo, we precise. Listos, malos, chingazo. Streets of London, we walk with the ghettos. Estonista, con las armas. Near the champagne, my peer dramas. Well, so, yo. Anything and anything, we ready for the war. Because, did you know Ricky when we sit down and make yam? Whoa, they say me look, they got camera. Mamas, bam, bam,
bam, bam, bam, bam. Go.
Salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour. Je vous signale aujourd'hui à l'hôtel du département de l'Eure, à Évreux, se tient un salon des seniors et des aidants. C'est de 9h à 17h, c'est gratuit, il y a des conférences le matin et l'après-midi et beaucoup de stands concernant ces sujets. Une équipe de principes actifs, Florence et Marie-Claude, vont faire un reportage et vous pourrez réécouter ce reportage sur Principe Actif dans les jours qui viennent. Bon salon et bonne journée. Au revoir.
Ben oui, on a toujours nos reporters de l'extrême, Marie-Claude et Florence, qui sont sur le coup. Marie-Claude et Florence du groupe de Vous à nous, on vous dit presque tout. On vous rappelle que cette émission des seniors reprend du service sur notre grille pour notre plus grand plaisir. Et vous la retrouverez le dernier jeudi du mois, à midi et demi. Si vous voulez vous en rendre compte et que vous ne voulez pas attendre ce dernier jeudi du mois, parce qu'on est en début de mois quand même, vous pouvez aller les retrouver dans les podcasts sur notre site internet. De Vous à nous, on vous dit presque tout et même un peu plus, j'aurais envie de vous dire. Voilà, c'est effectivement à l'hôtel du département aujourd'hui, le salon, la rencontre avec les soignants et les aidants du milieu médico-social. Et ça fait un lien tout trouvé avec le thème de ce matin, à savoir, nous recevons deux personnes de l'association Jules Ledin, Anne-Frédérique Cuvillier et Karine, qui est donc directrice générale de l'association, et Karine Letertre, qui est chef de service sur le foyer Annie Solange. Mesdames, en quelques mots, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'activité de l'association Jules Ledin, qui est, dont le siège social est à Breteuil-sur-Iton, et qui a 6 foyers de vie. En quelques mots, quel est l'objet de cette association Jules Ledin et qu'est-ce qu'un foyer de vie?
Alors, l'association Jules Ledin a pour objet de gérer des établissements, foyers de vie, foyers d'accueil médicalisés. Donc, comme vous l'avez dit, 6 lieux de vie, des établissements médico-sociaux, mais aussi des maisons où on accueille en maison extérieure, en fait, des places de foyers de vie externalisés. L'objet est d'accompagner les personnes dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale, et puis pour chacune d'entre elles, de leur proposer un projet d'accompagnement qui réponde à leurs attentes, à leurs envies, pour davantage d'autonomie, globalement, pour faire court.
Alors, quand on parle de personnes en situation de handicap, on l'avait dit, mentale ou psychique, en quelques mots, pour les novices qui ne sont pas sensibilisés à cette question-là, quand on parle de handicap mental ou quand on parle d'handicap psychique, de quoi parlons-nous ?
Bah, on parle de personnes qui ont pu avoir des retards d'acquisition, que ça soit dans le langage, l'acquisition intellectuelle, voilà, donc qui ont des difficultés parfois à pouvoir vivre une vie qu'on pourrait qualifier de normale, si on parle nous d'un point de vue personne lambda, mais qui voilà, qui aspire pourtant à des choses tout à fait banales comme vous et moi. Et mais ils ont besoin effectivement qu'on soit là, qu'on les soutienne, qu'on les porte, qu'on soit là à côté d'eux.
C'est ce qu'on appelle finalement, enfin, sont des adultes en fait déjà. Oui. Commençons par ça, sont des adultes qui dans le quotidien ont besoin d'un petit coup de main pour pouvoir le vivre au mieux finalement.
Tout à fait.
C'est l'accès à l'autonomie aussi, parce que alors peut-être que je me trompe et vous m'arrêtez surtout quand je dis des bêtises, mais dans le milieu du, enfin, pour les personnes en situation de handicap, la problématique étant l'autonomie, finalement, ils peuvent être amenés à rester longtemps dans le foyer, on va dire familial. Sauf qu'au bout d'un moment, on a envie de vivre sa vie ordinaire, la vie que tout le monde peut vivre, celle de l'autonomie, de voilà. Et c'est ce petit coup de main que le foyer, enfin que les foyers de l'association Jules Le Dain œuvrent en fait. Finalement, c'est sur ce secteur-là.
Oui. Alors après, les personnes qu'on accompagne au sein de l'association, on a des profils assez différents. On a des personnes qui peuvent être en situation de polyhandicap, pour lesquelles c'est une aide à la vie quotidienne, au repas, à la toilette. Bon, donc pour ces personnes-là, on est aujourd'hui encore peut-être un plus en difficulté pour leur proposer vraiment une vie comme tout le monde et de les accompagner vers un parcours de vie autonome. Mais des personnes qui relèvent vraiment de foyers de vie, avec une déficience intellectuelle finalement, là on peut effectivement travailler des parcours pour leur permettre d'abord d'être dans une maison en autonomie et peut-être pourquoi pas derrière pouvoir avoir un logement en milieu ordinaire avec peut-être un peu d'étayage médico-social, voilà, et à terme reprendre une indépendance totale. Ce sont des mouvements qui évoluent dernièrement quand même, hein. C'est pas encore fait complètement. C'est le secteur médico-social évolue vers ces dispositifs inclusifs et aller vers le milieu ordinaire.
C'est ça. C'est nous, on le voit, on travaille avec régulièrement des structures du médico-social, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cet accompagnement ou parfois cette prise en charge évolue d'année en année, c'est ça. Enfin, il y a vraiment une autre façon de l'aborder qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans encore. C'est toujours au bénéfice de l'usager. C'est comment ça se passe? C'est des façons de réfléchir qui sont différentes. C'est parce que vous n'allez pas me faire croire qu'il y a plus de moyens.
Non. Après, c'est vrai que les politiques sociales, elles ont évolué en termes d'accompagnement des personnes handicapées. Et avant, on parlait de la loi de 1975, après, il y a eu la loi de 2002, la loi de 2005, et puis ça continue. Donc, effectivement, l'usager, si au départ, dans les foyers de vie, on était là, on l'accueillait, effectivement, on lui faisait sa toilette là. Maintenant, on est vraiment dans du projet d'accompagnement. Et même pour les personnes qui sont en situation de polyhandicap, au sein de l'association Jules Le Dain, pour ces personnes-là, c'est de pouvoir leur offrir quand même un chez eux, quelque chose de personnalisé. Même en situation de handicap, j'ai envie de dire, l'environnement est très important. Et effectivement, l'association Jules Le Dain, mais les établissements médico-sociaux en général, ont évolué avec les politiques sociales et tendent vers l'inclusion, vers l'écoute de la parole de la personne. On parle d'autodétermination, on parle de valorisation des rôles sociaux il n'y a pas très longtemps. On est vraiment là pour les accompagner vers aussi leurs besoins et leurs demandes. C'est vrai que ça a beaucoup changé hein, ces 20 dernières années, le milieu du handicap.
Du coup, sur ces foyers, j'ai bien compris qu'ils ne fonctionnaient pas tous pareil, en fonction du besoin du public, bien entendu. Ça va de l'hébergement, j'allais dire collectif, du lieu collectif jusqu'à c'est l'appartement autonomisant, ou je sais pas comment on dit, c'est ça l'idée?
Oui, on les appelle des places de foyer de vie externalisées, mais oui, pourquoi pas, on pourrait renommer ça si ça a plus de sens pour le grand public, des lieux de vie autonomisants.
Alors, bon, c'était moi, hein, là, je...
Ensuite, dire que nos établissements ont à cœur, comme le disait Karine, d'accueillir les personnes dans un contexte chaleureux où chacun peut s'installer dans son lieu de vie, l'individualiser, voilà, son espace à soi. Et ça, c'est très important, effectivement.
Sur le boulot qui est mis en place avec les publics, parce qu'on parle d'hébergement, de foyer, de lieu de vie, on y reviendra un petit peu sur cette question de lieu de vie. Concrètement, est-ce qu'il y a un accompagnement? Vous parliez d'équipes pluridisciplinaires, on l'évoquait à l'instant que Karine avait été accompagnante, je sais pas comment on dit, AES, alors, c'est accompagnant éducatif
et social. Éducatif. À l'époque, c'était AMP, moi je suis un peu vieille.
Il y a des éducateurs, enfin, voilà, il y a tout un milieu qui il y a différentes disciplines en fait qui accompagnent les publics. Globalement, à quoi ressemble un accompagnement d'un public usager des foyers? De quoi est constitué cet accompagnement? Parce que la partie hébergement, on voit bien, mais finalement, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'hébergement. Et de quoi est constitué l'accompagnement?
Alors, de quoi est constitué l'accompagnement? C'est vrai qu'un professionnel qui vient travailler dans nos structures, on ne se rend pas compte, mais il a une grosse responsabilité, parce que souvent, en plus, il va être référent de deux ou trois personnes, mais il l'accompagne aussi bien alors, sur le quotidien, les toilettes, tout ça, mais il est là aussi pour être à l'écoute de ses demandes. Parfois, il doit observer finement les besoins, parce que les personnes qui n'ont pas accès à la parole, effectivement, pour aller déceler les besoins, ça demande une observation au quotidien d'être là tout le temps. Et c'est aussi la relation avec les tutelles, avec les familles, c'est l'argent de poche, c'est les sensibiliser justement à l'argent, à leurs ressources, à ce qu'ils peuvent s'acheter, ne pas s'acheter, parce qu'effectivement, ils ont pour certains pas cette notion. Donc, c'est vrai que l'accompagnant, il prend en charge globalement la personne du petit acte de la toilette, enfin, même si pour moi, c'est pas un petit acte, hein, c'est très important la toilette, mais jusqu'à des choses organisées, les séjours en vacances, enfin, voilà, il y a énorme, la palette est très très large. Accompagner, c'est de A à Z, et voilà, c'est vraiment un accompagnement global de la personne. Enfin, ça se passe comme ça au foyer Jules Le Dain.
L'objet étant peut-être que l'accompagnement se réduise pas par autonomie, en fait, finalement. C'est ça, c'est le but du jeu, d'accompagner. Ouais, je vois le sourire de Karine qui dit, ah ouais, ça c'est le top. Le but du jeu, c'est qu'une fois accompagné, il y a une prise d'autonomie, même fois adulte. Oui. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est déjà adulte que ça bougera pas. Bien au contraire, le but du jeu, c'est d'amener à l'étape d'autonomie d'après.
Tout à fait. Si au départ, effectivement, quand une personne arrive au sein de la structure, il y a beaucoup de travail à faire, à mettre en place, mais l'objectif toujours est que toutes les petites choses qu'on peut faire, c'est qu'il arrive petit à petit à les faire lui-même, à prendre des décisions lui-même. L'objectif, il est vraiment là, quoi. Et minime soit la progression, il y a toujours...
Oui, mais c'est ça qui est important. On va pas commencer à mesurer kilomètres ou je sais pas, en hectares les progressions, mais chaque millimètre gagné, chaque élément gagné, c'est du mieux-être, j'imagine, pour le public. Et c'est ça qui est gagné, quoi, finalement, c'est le mieux-être.
C'est clair.
Ils peuvent arriver, parfois, avec une entrée dans une structure plus accompagnante, un des foyers plus accompagnants, et puis peut-être changer de foyer dans le parcours, ou finalement, on va plutôt travailler dans le même lieu, différentes façons de l'aborder.
Non, on peut tout à fait avoir des structures avec différents niveaux d'accompagnement pour respecter justement les compétences de la personne. Concrètement, on est aussi dans une situation dans le secteur médico-social où les places ne sont pas non plus légion, et que même si pour certaines personnes on a des projets d'orientation, de parcours, c'est parfois difficile de les mettre en place faute de place. Voilà. Mais c'est tout à fait possible, oui, bien sûr. Et c'est du vécu. On a pas mal de personnes qui vont pouvoir aller faire des stages en ESAT pour pouvoir après.
ESAT, c'est lieu de travail adapté.
Oui.
Voilà.
Vous avez raison. On parle trop en acronyme. J'avais promis de ne pas le faire. Donc,
et moi, j'avais promis que je vous laisserais rien
exact.
Passer. Non, mais voilà, oui, c'est ça, pouvoir accéder au travail aussi, pouvoir accéder à tous les éléments accessibles de vie ordinaire.
Tout à fait.
Très bien. Eh bien, je vous propose... je vais quand même le dire. On est toujours avec Anne-Frédérique Cuvillier, directrice générale de l'association Jules Le Dain. Et puis, nous sommes également avec Karine Le Tertre, qui est chef de service du foyer Annie Solange. On va faire un petit tour. On a une chroniqueuse qui a fait la saison dernière avec nous, Martine Bourg. Et puis, elle a pris des vacances un peu prolongées. On n'a pas enregistré les prochains numéros. numéros de la chronique, mais j'avais envie de revenir sur un des premiers numéros qui nous raconte comment les temps changent. Les temps changent.
Les temps changent.
La disparition des espèces.
Avant que disparaissent toutes les espèces, il serait bon d'en garder au moins deux. L'éléphant et le rhinocéros, par exemple. Un ou deux couples de chaque, au cas où. Présentement, les canicules se succèdent. Les temps changent.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched.
Supposons que le Gulf Stream, repoussé par la fonte des glaces, s'éloigne de nos côtes. Nous serons bien dépourvus quand la bise sera venue. Banquise à Brive, glacier à Montpellier. Face aux tempêtes de neige et aux blizzards, que feront ces éléphants et ces rhinocéros? Ils s'adapteront. Depuis la nuit des temps, les animaux s'adaptent à leur environnement. Le thermomètre baisse, hop, ils se couvrent de fourrure. Et nous, dans nos igloos du Poitou, nous serons heureux d'enfiler un gilet en poil de mammouth et un petit pull tricoté en laine de rhinocéros laineux. Les hivers seront sévères en période glaciaire. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Mammouth en colère, tricot pas bien droit.
All over my skin, my lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in, and now I'm high. Was it all a dream?
Mandarine, c'est un titre de IBI. Je vous l'avais dit, quand ça fait trop plaisir de chercher des morceaux de musique pour le lendemain matin, ben ça s'en faisait partie.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous sommes toujours en direct avec Anne-Frédérique Cuvillier, directrice générale de l'association Jules Le Dain, et Karine Le Tertre, chef de service du foyer Annie Solange, un des 6 foyers, des 6 lieux d'accueil, des publics en situation de handicap intellectuel ou psychique. Nous évoquions un petit peu comment fonctionnaient les structures, finalement le lien avec le monde extérieur, parce que quand on est en foyer, on est en personne, enfin, on reçoit des personnes en situation de handicap. Il y a ce cocon un petit peu qui est fabriqué d'accueil et d'autonomisation des publics. Mais quel est le lien? Comment il se travaille avec le monde extérieur, avec le monde ordinaire?
Alors, il se travaille avec souvent le tissu associatif de la commune. Ça va être donc sur Breteuil, par exemple, on a beaucoup de partenariats avec l'association Le Parc.
Nous aussi.
Ils sont très actifs. Voilà, donc pour certaines personnes, ça va être le sport. Le sport est aussi un vecteur de dispositifs inclusifs. Donc, soit du sport adapté, soit directement en milieu ordinaire, s'inscrire en club de badminton. C'est le cas sur notre établissement du foyer Valandré, où on a des gens qui vivent dans le centre-bourg de la Baronnouche et qui sont inscrits au badminton, qui font partie de l'association Famille Rurale, qui font du tricot, qui participent à différentes actions associatives locales.
Et du coup, avec des publics ordinaires, quand on participe à un club ordinaire,
oui.
je pense, parce qu'il y a le sport adapté aussi qui existe.
Ouais.
On avait eu l'occasion de recevoir Maud, qui était joueuse de tennis de table et championne d'ailleurs en sport adapté.
Ouais.
Mais aussi, c'est la pratique en milieu ordinaire.
Également.
Voilà,
les deux sont possibles, les deux sont intéressantes. Et l'idée, c'est que ça corresponde au souhait de la personne pour qu'elle puisse s'épanouir.
Sur le monde extérieur, on parlait là d'activités de loisirs, mais les activités, j'ai envie de dire, c'est celles qu'on aime tous, aller faire les courses, aller prendre le bus pour aller voir des amis, des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce qui est travaillé sur les foyers?
Alors oui, effectivement. Alors sur le foyer Annie Solange, on a la chance, c'est d'être en centre-ville pratiquement. Donc effectivement, nous, beaucoup des personnes vont seules en ville, vont faire leurs achats de tabac, vont faire leurs petites courses, leurs petits plaisirs de une part de flan, aller au marché le mercredi matin. Nous, au contraire, enfin, on essaie de les accompagner au début pour qu'ils repèrent les lieux, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'ils y aillent seuls. Qu'ils puissent, comme tout à chacun, quand ils ont envie d'aller boire un coup en ville, qu'ils puissent aller boire un coup en ville. Alors, on a cette chance. Après, c'est vrai que dans le médico-social, il y a quand même beaucoup de structures qui se retrouvent un petit peu en race campagne. Ça date il y a très longtemps en arrière.
Quand on isolait peut-être les structures, des choses comme ça.
Voilà, un petit peu. Et effectivement, et ils subissent un petit peu aussi les déserts ruraux. Il n'y a pas de transport en commun, alors que certains vivent en race campagne et pourraient prendre seuls le transport en commun, mais il n'y en a pas. Comme les personnes lambda, ils se retrouvent aux mêmes difficultés que des personnes qui sont isolées. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est plus problématique. On n'a pas cette situation au foyer Annie Solange, et c'est vrai que les résidents... Ben, ils partent seuls en vélo, c'est pas des fois, parfois, ils sont partis. Mais c'est pas grave, ils reviennent toujours. Et puis, j'ai envie de dire, des fois, il faut prendre des risques. Il faut les laisser. Et ils se perdent pas. Une fois, une jeune dame est partie, elle s'est trompée d'établissement, elle est arrivée à l'EHPAD à Corian. Bon, c'est pas grave, ils nous ont appelés. On dit, je crois qu'on a... on a été la chercher. On lui a dit, c'est pas grave. La prochaine fois, vous verrez, vous y arriverez. À aucun moment, c'est un échec. C'est juste un petit détour. Elle a vu une autre structure, elle est allée voir. Moi, je trouve que c'est génial.
C'est ça, ça me fait penser au proverbe Shadoc qui disait « C'est en essayant continuellement qu'on finit par réussir. »
Tout à fait.
Donc, plus ça rate, plus ça a de chances de réussir.
Tout à fait. Moi, j'adore.
Juste un petit mot pour les établissements qui sont un petit peu plus isolés. Karine a raison. À ce moment-là, ce sont les accompagnants qui emmène les personnes en ville. Alors parfois, justement, pour des séances qu'on appelle sur un de nos établissements quartier libre, parce que on les emmène, ils ont un temps donné pour se promener, faire ce qu'ils veulent, et on les récupère. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive quand même à leur donner un accès en autonomie à des centres bourgs.
C'est aussi toute l'importance d'avoir une vie extérieure, enfin de mêler le milieu ordinaire avec le milieu du handicap. Même nous, pour nous, personnes ordinaires, c'est important aussi de côtoyer toutes les personnes qui font partie du monde, en fait. Tout simplement.
Complètement.
Enfin, je sais pas comment le formuler autrement, mais finalement, ça force aussi de côtoyer des personnes, on va dire, avec des différences ou en situation de handicap, que finalement, on va de mieux en mieux les appréhender a priori, parce que effectivement, ça peut désarçonner aussi, j'imagine, un commerçant ou quelqu'un qui, face à une personne qui a peut-être une approche un peu différente, ou des difficultés au moment de, je sais pas, demander son article pour un achat ou autre, la personne en situation de handicap peut être en difficulté, c'est comment le commerçant ou la personne qui est en interaction avec va appréhender la situation. C'est pas toujours évident non plus pour le milieu ordinaire.
Non, tout à fait, mais nous, ça nous arrive régulièrement, ce Breteuil, d'être appelé par un commerçant, parce qu'un résident, à ce moment-là, il veut plus acheter, ou alors il a mis quelque chose, on va dire, par inadvertance dans ses poches. Mais voilà, nous, on ne dramatise pas. Enfin, je veux dire, voilà, le commerçant appelle, on va le rencontrer, on lui dit oui, effectivement. Alors, vous le reverrez, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison. Après tout, il y a plein de gens lambda qui, par inadvertance, mettent des choses dans leur poche. Donc, j'ai envie de dire... On ne dramatise pas, on discute avec le commerçant. Et puis, c'est vrai que, là encore, à Breteuil, ils ont tellement l'habitude d'aller dans les commerces. Et je pense que nous, établissements médico-sociaux, on doit aller vers ça. C'est pas le public extérieur qui va venir, parce qu'effectivement, je comprends que les personnes à l'extérieur, ils puissent avoir une peur. Mais plus ils seront intégrés dans le tissu associatif, dans la vie sociale d'une commune, plus les barrières tombent et les appréhensions s'envolent, quoi.
Sans même qu'il y ait une peur ou autre, c'est comment appréhender la situation face à une situation dont je n'ai pas l'habitude. Comment est-ce que je vais être en interaction avec une personne qui en plus est atypique dans la façon d'appréhender les choses. Mais ça s'apprend, et puis
il n'y a pas de recette. Après, tout un chacun a sa personnalité. Certains fuient, certains essayent de comprendre, certains questionnent. Mais voilà, il n'y a pas de recette. On a chacun aussi notre caractère et nos peurs.
On parlait des actions et des animations et des actions mises en œuvre par les foyers. Demain, c'est jour de fête quand même pour l'association Jules Ledain, non ?
Oui, c'est une belle manifestation donc qui est organisée demain à Breteuil, à la salle des fêtes, qui va être le prix Jules Ledain. Donc à l'initiative d'un de nos administrateurs, Patrice de Fleury, qui a eu l'envie en 2019, 2022 ce sera la deuxième édition du prix Jules Ledain, la première édition a lieu en 2019. L'idée initiale était de faire connaître le monde du médico-social et de valoriser à la fois les personnes en situation de handicap dans ce qu'elles étaient capables de le faire et à la fois les métiers de l'accompagnement médico-social dans la richesse des missions qui sont les leurs. Faire valoir que c'est un métier qui a du sens, montrer tout ce qui est possible en étant AES dans un établissement comme les nôtres aujourd'hui. Voilà, donc une belle manifestation demain, et puis une porte ouverte samedi. Tout le monde peut venir voir les différents projets qui ont été mis en place au bénéfice des personnes, principalement à la demande des personnes, c'est-à-dire que les AES sont là pour répondre aux attentes et aux envies des personnes, et donc mettre en place des projets. Ça peut être aller à la mer en train, parce qu'une personne n'a jamais pris le train. Voilà, des choses comme ça, aussi simples que ça, mais qui sont géniales et riches.
Alors il y a plusieurs prix, il y a plusieurs récompenses qui vont être posées. Globalement, quelles sont les thématiques explorées ou quels sont les projets qui sont aujourd'hui presque en compétition. On est comme à Cannes finalement avec un prix. Donc voilà, quelles sont les actions en compétition. C'est pas mal ça.
Alors elles sont nombreuses.
Des exemples concrètement.
Globalement, donc il y en a 23, donc on va pas faire les 23.
Non.
Vraiment comme ça.
On va pas faire vos préférés non plus, on a compris, c'est demain le prix, donc on peut pas le dire comme ça.
Je vais essayer de les donner dans l'ordre
alphabétique. Allez, on fait l'ordre alphabétique.
Alors, un projet voile où les personnes en situation de polyhandicap sont parties faire de la voile, donc ça c'était très sympa. De l'art thérapie. S'épanouir par l'expression artistique, l'équithérapie, on a parlé transfert, mais on parle aussi vie en autonomie, le projet Nouvel Horizon, 6 personnes qui vivent au sein de la Barre en Ouche. On a aussi des personnes qui ont passé leur brevet PSC1 pour devenir secouristes et qui l'ont obtenu, voilà, avec beaucoup de sérieux et d'implication. Voilà, des différents projets autour des notions de réponse aux attentes des personnes, de dispositifs inclusifs, d'autonomie. Voilà, c'est brièvement les attentes un petit peu des différents projets proposés par les professionnels, et remercier tous les professionnels qui ont répondu à l'association en proposant leurs projets, parce que c'est du travail, c'est en plus, hein, c'était du volontariat, donc il faut reconnaître aussi tout le travail qui a été fait par les 23 projets présentés demain.
On y reviendra sur les professionnels, parce que je vais pas les laisser s'en tirer comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom quand même sur ces professionnels, justement. Mais je voulais revenir sur le prix et puis l'événement de demain. C'est un jour de fête, quand je disais que c'était un jour de fête. Est-ce que les usagers seront présents pour partager cette fête? Et comment ça se passe, du coup?
Bien sûr. Tout d'abord, ils font partie du jury. C'est-à-dire que notre jury cette année est composé de personnes accompagnées d'abord, de représentants des familles, d'administrateurs et de personnes qualifiées, donc des gens un petit peu extérieurs à l'association, qui vont nous apporter leur regard de professionnels ou de personnes sensibles à notre activité. Donc voilà, ils font partie d'abord du jury, ensuite ils vont monter sur scène parce qu'ils sont acteurs du projet, hein, c'est souvent en réponse à leurs attentes, co-construit, voilà. Donc ce sont à la fois les professionnels, mais aussi les personnes qui sont récompensées demain. Et puis, on a aussi donc les membres du jury, personnes accompagnées, qui remettront les prix par établissement. Donc, ils sont le fil rouge de notre cérémonie de demain.
C'est appréhendé comment une parce que c'est vraiment une journée de fête. Je veux revenir sur cette notion de journée de fête. Je rigolais tout à l'heure en disant c'est le festival de Cannes de Jules Ledain. Mais voilà, comment est-ce qu'on appréhende cet événement qui va être autant un événement de valorisation quand même, parce que c'est hyper important. Vous évoquiez à l'instant le passage d'un diplôme de secourisme pour les résidents. C'est pas anodin finalement, parce qu'il y a cette notion de c'est le même diplôme que pour les autres, en fait. C'est pas un diplôme de secourisme adapté, c'est un diplôme de secourisme tout court. Voilà, donc c'est hyper valorisant. Comment c'est appréhendé cette fête, parce que c'est, avant tout, c'est une fête, cette valorisation. Est-ce que le public attend ça de pied ferme, parce que finalement la dernière édition c'était 2019 et ça commence à être loin maintenant. On y a pris goût en 2019 et il a fallu attendre 2022 pour avoir une seconde édition. Comment c'est appréhendé par le public tout ça? Est-ce qu'on va se mettre sur son 31?
Oui, déjà. Et comme vous parliez de valorisation, effectivement, quand ils présentent les projets, quand ils se revoient eux, parce que les projets sont diffusés après, donc enfin pendant la cérémonie, donc quand ils se revoient, effectivement, c'est très valorisant. Mais ils sont aussi en compétition, hein. Pour eux, c'est important de recevoir un prix, quoi. C'est voilà,
il n'y aura pas 23 prix.
Non.
Qu'on se le dise.
Non, malheureusement.
C'est normal.
On a souhaité, l'association a souhaité remettre un prix de l'engagement associatif à chaque personne qui porté un projet.
Tout à fait.
Voilà.
Mais il y aura des lauréats.
Il y a un lauréat par établissement et un grand prix.
Ce qui est un peu normal, quoi. Comme dans le monde des récompenses, comme vous parliez du Festival de Cannes, tout le monde n'est pas récompensé.
Tout à fait, c'est pareil.
Pour eux, je veux dire, quelque part, pourquoi dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut aussi à travers ce prix, après c'est à nous de les accompagner, dire bah oui, effectivement, là vous avez pas gagné un prix, mais quel beau projet quand même.
Attention, ça veut pas dire que ceux qui ne gagnent pas le prix, ce sont pas de beaux projets. Hein.
Voilà.
De toute façon, ils sont tous beaux pour être présentés, quoi qu'il arrive.
Tout à fait. Et moi, j'ai la chance de ne pas faire partie du jury, parce que pour avoir vu l'ensemble des projets, ça va être compliqué. Hein.
Très bien, je vous propose une petite pause musicale et puis nous revenons juste après pour parler des métiers notamment. Parce que moi je voulais qu'on parle un peu de ces métiers qui nous paraissent de loin comme ça, on ne fait pas forcément la distinction. Et on va valoriser aussi ces métiers, voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Allez, Ouya, c'est encore de la nouveauté, c'est encore tout frais. Comme je vous le disais depuis le début de l'émission, les plaisirs de se balader à la recherche de nouvelles propositions musicales pour la matinale. Allez, Ouya, c'était un petit partage du matin.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HDR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et jusqu'à 9h, nous serons toujours avec Anne-Frédérique Cuvillier, directrice générale de l'association Jules Le Dain, et Karine Letertre, chef de service sur le foyer Annie Solange, toujours de l'association Jules Le Dain. Cette association accueille des personnes en situation de handicap mental et psychique pour notamment des espaces de vie et puis accompagner au mieux ces personnes en situation de handicap. Justement, on a parlé du prix Jules Le Dain, on a parlé un petit peu de la structure, comment ça fonctionnait, comment étaient accueillis les publics. Mais ils sont accueillis par des professionnels. Et moi, je voulais me pencher un petit peu sur cette dernière partie, sur les métiers, finalement. Et je crois que, Karine, vous êtes le parfait exemple, parce que vous avez commencé votre carrière dans le milieu en tant qu'aide éducative sociale, AES, peut-être vous le dites mieux que moi sur l'abréviation de AES. Vous avez été monitrice éducatrice, vous avez été éducatrice spécialisée, aujourd'hui vous êtes chef de service. À chaque métier, il y a une façon d'accompagner différente, il y a une répartition des rôles, et puis alors nous d'ici, on sait pas très clair pour nous comment ça se répartit tout ça.
Alors en effet, c'est vrai que moi j'ai commencé, j'étais auxiliaire de vie, alors on appelait auxiliaire de vie, il n'y avait pas forcément de diplôme à l'époque pour être auxiliaire de vie, donc on fait avec ce qu'on est, on fait avec ce qu'on a.
Et alors ça consiste en quoi d'être auxiliaire de vie?
Alors, on accompagne les résidents, effectivement, les personnes dans le quotidien, un petit peu comme l'AES, mais sauf qu'on n'a pas toutes les ficelles, on n'a pas toute la sensibilité, on n'a pas d'apport théorique. Le handicap, oui, on ne sait pas la différence entre quelqu'un qui a un handicap mental, quelqu'un qui a une maladie mentale, quelqu'un qui est polyhandicapé, quelqu'un qui a des troubles autistiques, TSA maintenant. Enfin, voilà. Dans le handicap, on n'accompagne pas pour moi une personne de la même façon qui a des troubles autistiques et quelqu'un qui a un handicap mental, trisomique ou une pathologie qui se fragile, enfin voilà. Pour moi, on doit s'adapter à chaque personne. Chaque personne est singulière. Mais ça, je pense qu'on l'acquiert avec la formation. Moi, j'ai commencé, j'étais pleine de bonne volonté, je pense, mais voilà.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà bien. Mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'affectif. J'étais là pour eux, je voulais les aider. C'est souvent ce qu'on dit, je voulais être utile. Voilà. Et j'ai fait ma première formation qui s'appelait AMP, Aide Médico-Psychologique, qui maintenant s'appelle AES, qui a été réformée. Et là, ça a été un déclic pour moi. Là, j'ai appris plein de choses et je me suis dit, là, ce que tu fais, c'était pas très bien. Donc, je vais faire mieux. Après, j'ai mis plein de choses en place. Et après, j'ai voulu aller plus loin parce que j'avais envie d'apprendre plus, de découvrir plus. J'ai fait métier de moniteur éducateur, la formation de moniteur éducateur. J'ai eu la chance qu'on me propose cette formation.
Alors, c'est moniteur éducateur, c'est celui qui va accompagner sur les activités, c'est ça? Qui a déjà une perspective éducative?
Alors, oui, voilà. Alors, on se projette plus dans une perspective éducative sur un métier de moniteur éducateur. Effectivement, le moniteur éducateur peut aller aussi bien en protection de l'enfance qu'en CHRS, en hébergement d'accueil d'urgence. Enfin, voilà. Il a une palette un peu plus large. Effectivement, à chaque fois, à chaque formation, on pousse un petit peu vers de l'accompagnement plus éducatif, plus approfondi. Et du coup, à chaque fois, en tant que professionnel, j'ai changé mon regard, ma façon de faire et me dire que moi, ce que je pense qui est bien pour eux, c'est pas forcément... Ce qu'il est, quoi.
C'est ça, on commence avec du bon sens, puis après on commence à analyser les pratiques, voilà. Et savoir quels sont les outils les plus adaptés pour le
tout
public, et finalement peut-être pas apporter les réponses, mais apporter les outils.
Tout à fait.
C'est ça l'idée.
Et puis se rendre compte qu'on travaille pas seul. On n'est pas tout seul, on est toute une équipe. Alors, dans une structure foyer de vie, effectivement, on parle des AES, des accompagnants, mais il y a aussi la secrétaire, il y a les hommes d'entretien, il y a la logistique, il y a les cuisinières, il y a les femmes de ménage. Si elles ne sont pas là, ça ne fonctionne pas non plus.
Est-ce que du coup, pour ces métiers, on va dire qu'on peut retrouver dans le milieu ordinaire, quand on se retrouve dans du milieu spécialisé, est-ce que ça demande quand même d'aborder les choses différemment? Est-ce que quand on est cuisinier sur un foyer de vie, est-ce qu'on l'aborde différemment que quand on est cuisinier, je sais pas moi, à la cantine centrale?
Forcément. En fait, tous les acteurs de l'association, quelle que soit leur fonction, font partie du projet associatif et peuvent être amenés à travailler autour du projet d'accompagnement des personnes. Typiquement, le cuisinier, bah oui, parce qu'il... Alors, nous, le choix au niveau de l'association, chaque établissement a une cuisine sur place. Il n'y a pas de cuisine centrale ou quoi que ce soit. De façon à pouvoir justement s'adapter et puis préparer le petit sandwich qui va bien ou adapter un repas du soir à une personne qui en a le besoin, le souhait.
Et puis peut-être mieux manger à l'année aussi.
Et ouais, clairement. Et c'est vrai, comme le disait Karine, c'est vraiment un collectif. Et là, je voudrais juste glisser un mot justement par rapport à nos spécificités, à nos difficultés d'attractivité dans le secteur. Et sur ces métiers de la logistique qui n'ont pas eu la reconnaissance que d'autres ont eue suite au Covid et suite aux primes Ségur que le grand public a entendu pour bénéfice des EHPAD et du secteur hospitalier.
Alors globalement, c'est pour les métiers, enfin pour les personnes qui étaient mobilisées durant la période Covid, qui n'ont pas cessé de travailler, qui étaient avec les publics sur les lieux de vie, sur le fonctionnement. Pour cet engagement-là, il y a toute une partie des professions dans le médico-social qui ont eu des primes de services. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
On mais peut des dire primes Ségur pour faire court.
Primes Ségur, mais voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose. Dès qu'on met un nom, en fait, on enlève ce que ça veut dire finalement. Okay. Donc la prime, c'était de service, quoi, finalement. Oui. C'est d'avoir fonctionné et puis d'avoir, même sur ces moments de difficultés spécifiques, on travaillait. Et finalement, ces personnels n'ont pas été reconnus comme le personnel accompagnant.
C'est ça.
Vous évoquiez les secrétariats, les personnels de cuisine, d'entretien éventuellement.
Oui, voilà. La lingerie. Les lingères, pendant le Covid, elles ont traité le linge Covid. On a eu des clusters. Elles étaient vraiment au premier rang. C'était des personnels absolument indispensables qui font des métiers qui ne sont pas faciles. Et aujourd'hui, elles n'ont pas cette reconnaissance. Et du coup, en termes d'attractivité, c'est difficile. Et puis, en termes de valorisation des professionnels, elles le vivent difficilement. Je dis « elles » parce que ce sont quand même des femmes très, très majoritairement.
Oui, parce que finalement, on peut se poser la question, elles étaient là ou elles n'étaient pas là?
Elles étaient là. Elles se sont même battues pour pouvoir laisser leurs enfants en garde pendant le Covid.
Oui, parce qu'elles pouvaient rentrer dans les situations, elles rentraient dans les cases pour faire garder les enfants, à un moment où finalement, on n'était pris que les enfants de soignants et d'accompagnants.
Et encore, il fallait qu'elles se battent pour avoir le droit de les laisser.
Mais elles l'ont eu, donc elles rentraient bien dans la catégorie. Oui. Et au moment de la prime, finalement, on devrait faire la prime en fonction de ceux qui pouvaient laisser les enfants.
Tout à fait.
Ce serait plus simple.
Ça pourrait être intéressant comme critère.
Ben non, mais c'est qui a été obligé de confier ses enfants et de pas être confiné.
Voilà.
Et ben voilà, ben c'est la prime.
Donc on espère qu'on sera entendu par notre gouvernement. On a été reçu par le préfet il y a peu dans ce cadre-là sur la valorisation des métiers du secteur médico-social et plus largement des métiers éducatifs, du soin. On dit les métiers de l'humain. Parce qu'on est sur des secteurs qui ont du sens, qui sont valorisants, mais qui ne sont pas reconnus financièrement aujourd'hui.
J'ai eu l'occasion d'échanger avec Joël Contreras, le président de l'association Jules Le Dain. Nous avons échangé ensemble, Anne-Frédéric, avant cette émission. Et il y a chaque fois un élément qui est revenu, c'est valorisation des métiers et puis attractivité aussi du secteur. On est sur un secteur qui peine à recruter. On est sur un secteur finalement peut-être méconnu, sur lesquels les gens s'orientent pas forcément. Alors que ce sont des métiers de l'humain, ce sont des métiers plutôt intéressant en fait globalement, et puis Karine est là pour nous dire aussi on peut avancer dans le métier. Il y a tout ça en fait, c'est finalement ça remplit toutes les cases du métier sympa.
Ah mais c'est passionnant, et le prix Jules Le Dain, il est là pour ça, pour mettre en valeur l'AES au niveau de l'association Jules Le Dain aujourd'hui a les moyens de mettre en place des projets au bénéfice des personnes, enfin en réponse à leur attente, qui sont extrêmement intéressants. Donc on espère pouvoir valoriser et puis accueillir samedi un public large pour voir ce que c'est que le métier.
Sur les portes ouvertes, sur les foyers.
Sur les portes ouvertes, à Breteuil, à la salle des fêtes, de 11h à 17h.
Et ben voilà, c'est ça, faut y aller en fait, finalement, se poser des questions sur le métier. Non mais parfois, quand les jeunes sont en orientation, se disent, c'est des métiers pas forcément connus, et du coup, on va vers ce qu'on connaît, c'est-à-dire les métiers un petit peu plus évidents. Et puis finalement, il y a tous ces métiers-là qui peuvent ouvrir un intérêt professionnel, ça c'est important, et puis de l'évolution aussi dans le secteur.
D'autant plus que nos associations, et je dis nos associations parce que l'association Jules Ledain est aussi partenaire avec plein d'autres associations sur le département, et nous sommes des lieux d'accueil, d'apprentissage, de formation. Voilà, si des jeunes ont des souhaits de travailler dans ces secteurs, qui viennent vers nous. On propose des contrats d'apprentissage, de la formation qualifiante et puis effectivement des perspectives d'évolution.
Ce qui est plutôt pas mal. Allez, un petit tour au Brésil et puis on revient dans un instant pour conclure cette émission ensemble, ce qui nous donnera l'occasion pendant la musique de vérifier nos petites fiches si on a tout dit. Hein, ça vous va ? Allons faire un tour du côté du Brésil. Cash Play, c'était le petit plaisir du matin, ça nous faisait voyager. Nous sommes toujours avec Anne-Frédérique Cuvillier, directrice générale de l'association Jules Ledain, et Karine Letertre, chef de service sur le foyer Annie Solange de cette même association Jules Ledain. On a évoqué un petit peu la vie en foyer, le prix qui va se dérouler demain, le prix Jules Ledain qui va être un grand moment de fête. Et les auditeurs ne le voient pas, mais quand j'ai dit le prix Jules Ledain, ce moment de fête, il y avait deux sourires en face de moi jusqu'aux oreilles, ce qui veut bien dire que c'est attendu aussi par les professionnels, autant que par les usagers. Et puis, samedi, portes ouvertes à la salle des fêtes de Breteuil-sur-Iton, où bien entendu, tout le monde est invité à aller découvrir les projets, à aller découvrir les lieux, les métiers, en fait, tout ce qui fait la vie de l'association Jules Ledain. Sur cette conclusion, on échangeait un petit peu hors antenne, on disait finalement, c'est comment aborder le monde avec un regard peut-être un peu de côté ou un peu différent quand on est face à ces publics en situation de handicap intellectuel ou psychique. C'est comment aussi le milieu ordinaire doit s'adapter. Finalement, on parle d'adaptation pour ces publics, mais c'est comment le monde ordinaire doit s'adapter aussi.
En fait, je pense que c'est juste respecter chacun dans ce qu'il est. On est tous différents. C'était votre introduction qui était géniale d'ailleurs.
Ah ben ça, c'est une citation. En fait, on a travaillé avec Fatia, je vais la nommer. Fatia, qui est notre voisine en plus, qui habite juste à côté dans les apparts là. Et un jour, elle nous a sorti ça sur un témoignage de sa vie de personne en situation de handicap. Et puis elle me regarde, mais c'est venu tout seul. Elle nous regarde, elle fait « Bah ouais, on est différents. » Bah comme tout le monde.
Exactement.
Et je trouve ça juste génial parce que finalement ça résume bien la question. Nous sommes tous différents, donc nous sommes nous-mêmes la personne différente de quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Hein. C'est plutôt pas mal cette différence justement des uns des autres. Est-ce que vous avez un dernier mot dans les minutes qui nous restent à ajouter?
Alors juste un petit mot. Donc nous avons une association de directeurs d'établissements sur le département qui s'appelle l'association Heure. Et je voulais proposer parce qu'on organise notre 11e journée d'études sur Évreux le 29 novembre 2022 qui s'appellera Partager sans exclure l'horizon inclusif, rien n'est impossible. Notre thématique, ça va être autour des dispositifs inclusifs, la possibilité justement, quelles que soient nos différences, de faire tous les projets possibles
et de s'épanouir.
Voilà. Donc partagez cette information aussi. 29 novembre, c'est ouvert à tous avec l'intervention. Ce sera à Évreux au manège de Tilly.
Au manège de Tilly.
Voilà.
Très bien.
Et on aura l'intervention de Monsieur Charles Gardou, de Joseph Chovanec et de Salim Ejlani. Voilà, tous trois journalistes, écrivains, personnes en situation de handicap, sportifs de haut niveau. Voilà, donc ça va être très riche et c'est ouvert à tous.
Très bien, et bien merci beaucoup à vous Anne-Frédérique Cuvillier, directrice générale de l'association Jules Ledin. Merci Karine Letertre, chef de service sur le foyer Annie Solange, d'être passée par nos micros. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.